Pierre Larousse, Fleurs historiques, préface. Comment on peut faire une préface sans le vouloir et sans le savoir? Donc, puisqu'il est bien décidé que pas un lecteur qui se respecte ne saurait lire une préface, on se demande aux premières lignes de celle-ci pourquoi tant de préfaces écrites avec tant de zèle et tant de soin par quantité de bons écrivains et d'honnêtes gens désireux de paraître aux lecteurs bénévoles et de capter ses bonnes grâces. Hors-d'œuvre, la préface est un hors-d'œuvre. Et ils ont tout dit. Eh bien, supprimez-vous les hors-d'œuvre d'un festin bien ordonné. Un livre que l'auteur vous invite à parcourir, sur chaque page duquel il interroge votre goût. Il attend avec anxiété votre jugement. N'est-ce pas un banquet dont il est l'amphitryon? C'est un nouveau trimalcion à faire les frais du défestin. Il ne faut pas que le convive soit un instant sans entendre une bonne parole ou sans quelque chose à grignoter. Le véritable amphitryon est celui qui vous tient attentif des œufs aux fruits, des radis aux cerneaux. Le véritable écrivain tiendra donc son lecteur de la préface au mot fin. Sinon, l'auteur manque à sa tâche, l'amphitryon manque à sa gloire, et Célimène aura toute raison de lui reprocher que de son cuisinier il s'est fait un mérite et que c'est à sa table à qui le rend visite, qu'il prend soin d'y servir des mets fort délicats, mais que l'on voudrait bien qu'il ne s'y servît pas. En outre, la préface est au livre ce que sont à la conversation certaines mais utiles formules que s'adressent deux amis quand ils se rencontrent. « Bonjour, cher, comment ça va-t-il ? » Cependant, quel est le mal appris qui oserait s'affranchir de ces banalités ? Bientôt, l'abordage étant fait, voilà nos deux amis qui se racontent l'un à l'autre leurs émotions, voire leurs aventures depuis leur dernière rencontre, et plus d'une fois la causerie qui commence par « Comment vous portez-vous ?» s'élève aux plus hautes considérations. D'où il suit qu'il ne faut rien mépriser et rien négliger des grandes et des petites choses de l'esprit humain. L'été passé, des bords fleuris de Lorraine, délicieuse petite rivière du département de l'Yonne, perdue au milieu des bois, arrivait dans notre modeste ermitage de Billancourt une jeune provinciale. J'ajouterai bien que Madame Laurence n'est ni blonde ni brune, ni grande ni petite, ni vieille ni jeune. Mais comme ces antithèses superbes émaillent déjà tout nos traités de rhétorique, je vous dirai tout bonnement qu'elle est sage, bien tournée et d'agréable aspect. La journée du lendemain fut employée par cette aimable femme à visiter le musée du Louvre et le musée du Luxembourg. Moi, malheureux, retenu par mes livres en mon logis studieux. Le soir de cette rude journée, on était à table à ce moment du repas où une douce langueur commence à circuler dans les veines. La conversation eut son tour. On causa, non de la politique, une très passée, mais d'histoire, de beaux-arts, de littérature, aimables et vivantes passions qui nous trouvent toujours attentifs. La modeste et sérieuse Laurence, qui, grâce à Dieu, prend volontiers sa part d'une causerie étrangère au magasin de mode de la rue de la Paix, se mit à le raconter en termes entrecoupés de mots charmantes et de jolis airs boudeurs, la déception, disons le mot, l'ennui qu'elle venait d'éprouver dans la compagnie de Raphaël, des Michel-Ange, des Rubens, des Rembrandt et des Murillo. « Certes, s'écriait-elle, J'ai vu d'admirables choses, les plus riches tableaux, les plus magnifiques statues, les œuvres immortelles des plus grands maîtres. Toutes les écoles françaises, italiennes, florentines, flamandes, hollandaises, espagnoles, rassemblées comme dans un banquet divin. Mais à chaque maître, à chaque toile, à chaque école, était attaché le mot mystère. Oh, ce grand Louvre, on dirait d'une énigme à deviner. Un chiffre et voilà tout. Un chiffre inerte et muet. Pour m'expliquer les scènes dramatiques ou légères, guerrières ou riantes, simples ou grandioses, que j'avais sous les yeux. Je voyais les personnages se mouvoir et s'agiter dans tous les sens. Leurs yeux respiraient toutes les passions, leurs figures exprimaient tous les sentiments. Palais, temple, chaumière, la couronne et la houlette, le sceptre et l'éventail, tout menaçait, pleurait, souriait, s'agitait. Et moi, dans ce tourbillon de toutes les gloires, de toutes les douleurs, je cherchais en vain le motif, la passion, l'accident qui faisait s'épanouir, grincer, rugir, gémir, prier tant de personnages si divers. Oui, dans ces galeries, sans fin peuplées par le génie, qui éclate sous mille aspects, le philosophe ou le critique a oublié d'allumer la lanterne. Je vois bien quelque chose, mais je ne sais pour quelle cause, je distingue pas très bien. En présence de tous ces chefs-d'œuvre, et sans une charitable légende qui serait le fil d'Ariane entre les mains de tous ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire des beaux-arts, j'étais comme l'affamé, savourant du regard les figues appétissantes, les abricots dorés, les pêches vermeilles, les raisins empourprés, dont une grille infranchissable sépare. Ils sont trop verts. Oh, ce supplice d'une curiosité inassouvie est 100 fois plus cruel que les supplices de Tantale et d'Ugolin. Tous les convives répondirent aux justes plaintes de la jeune dame par un signe d'assentiment. Et entre autres drames, sans nom, reprit Laurence, j'ai été vivement ému à l'aspect d'un tableau rempli de mouvements et de tumultes. Des hommes, ou je devrais dire des tigres, ivres de fureur, partagés en deux camps, semblent sur le point d'en venir aux mains. Ils brandissent leurs armes, se provoquent du regard. Encore un moment, et la mêlée ardente va s'engager, le sang coulera à flots. Au même instant, accourent des femmes éperdues, échevelées, portant dans leurs bras de tout petits enfants qu'elles élèvent au-dessus de leur tête et qu'elles semblent présenter aux deux parties avec des angoisses inexprimables. Éplorées, suppliantes, elles se précipitent contre les combattants. Et voilà nos soldats qui laissent tomber leurs armes et leur fureur. Pour la première fois peut-être sur un champ de bataille, la faiblesse paraît triompher de la force. À la fin, j'interroge le muet, c'est-à-dire mon livret, qui me fait cette sublime réponse divisée en 3 points comme un sermon de Bourdaloue. Numéro 149, David, les Sabines. Eh bien, dis-je à mon tour, mon élégante Laurence, je comprends votre émotion. Vous étiez en présence d'un des chefs-d'œuvre du grand peintre à qui nous devons une salutaire révolution dans l'école française. Ce tableau représente un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire romaine. En voici la légende. Pour augmenter la population de son état naissant, Romulus avait ouvert un asile à tous les aventuriers qui voudraient partager les futures grandeurs de l'empire qu'il avait fondé. Mais les femmes manquaient à ces héros. Ils étaient seuls et sans famille. pas d'amour partant, pas de joie. En vain, ils imploraient l'alliance de leurs voisins. Cherchez, disaient ces dédaigneux, des femmes qui vous ressemblent. Repoussé de toutes parts, le fils de la louve fait proclamer une fête et des jeux publics. À cette annonce heureuse, les jeunes Sabines, superbement parées, vinrent en foule. Et au plus beau moment de la fête, et ces curieuses s'abandonnant au double plaisir de voir et d'être vues, soudain nos jeunes bandits se précipitent comme des lions sur cette timide gazelle. À l'aide, au meurtre, au secours, elle criait, elle pleurait. Et cependant, quelques jours plus tard, elles pardonnèrent. Mais les pères et les frères et les fiancés de ces filles, à Rome, et vengeons-nous. Ils attendirent toute une année. Oh, conflit mémorable! Oh, bataille entre ses frères et ses beaux-frères! Ce fut alors que, portant leurs enfants dans leurs bras, les Sabines accoururent et se jetèrent entre les combattants. Ah, grâce à vous, cher maître, je comprends le drame et je revois le tableau. Que dit le proverbe? Un peu d'aide fait grand bien. Vous m'avez aidé, je continue. Avec votre permission. Du Louvre au Luxembourg, il n'y a qu'un pas. Voyons cependant si notre Édipe m'expliquera aussi facilement les énigmes de cette galerie où les peintres vivants attendent les honneurs du Louvre et les attendent patiemment. Une vaste toile fixa tout d'abord mon attention. Des hommes, des femmes de tout âge et de toutes conditions, en habits de cour, en robe de soie, les traits pâles et abattus, les yeux rouges de larmes, semblent entassés dans le préau, sur le seuil funeste d'une prison. Au milieu de cette foule, un personnage en costume d'archevêque, le visage calme et résigné, puis une sorte de fonctionnaire, la tête haute, la physionomie impassible, lisant une liste fatale. Et autour de cet aboyeur de la mort, et dans le fond du tableau, des figures à expression cynique et repoussante. Au premier plan, sur une misérable chaise de paille, un jeune homme, les yeux rêveurs, la tête appuyée sur la main droite, et de la gauche tenant des tablettes complètement absorbées et paraissant insensible à la scène déchirante qui se passe autour de lui. Qu'est-ce enfin, je vous le demande, que cet affreux mélange d'impassibilité et de désespoir, au fond duquel j'ai deviné un drame terrible, une minute suprême. Et vous ne vous êtes pas trompé, Laurence. Vous aviez sous les yeux le tableau célèbre de M. Louis Müller, l'appel des victimes de la terreur. Le fonctionnaire dont vous parlez vient faire l'appel de mort des malheureux que le tribunal impie a condamnés à monter ce jour-là sur l'échafaud. Autour de la charrette, une insulte immense. Hélas, le doux jeune homme aux yeux pensifs, qui s'abandonne à la rêverie, est un enfant d'Ilionie, André Chénier. Quoi ? S'écria Laurence, les lèvres frémissantes et les yeux brillants d'émotion. C'était là le poète charmant de cette lyre brisée ? Oh, le cœur se serre en songeant qu'en ce moment il traçait sur ses tablettes ces vers touchants, interrompus par la hache. Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr, anime la fin d'un beau jour. Au pied de l'échafaud, j'essaye encore ma lyre. Peut-être est-ce bientôt mon tour. Peut-être avant que l'heure en cercle promenée est posée sur les mailles brillants, dans les 60 pas où sa route est bornée, son pied sonore et vigilant, le sommeil du tombeau pressera ma paupière, avant que de ses deux moitiés, ce vers que je commence ait atteint la dernière, peut-être en ces murs effrayés, le messager de mort, noir recruteur des ombres, escordé d'infâmes soldats, remplira de mon nom ces longs corridors sombres. Je l'entends, je le vois, il se lève, il marche à la mort, la tête haute et le ciel dans le regard. Quel drame et quel tableau! André Chénier, dans le tombereau qui s'en va, lentement sur cette place de la Révolution où le roi est mort, où sont mortes la reine et Madame Élisabeth, rencontre à ce rendez-vous funèbre son digne ami, le poète Rouchet. Et les voilà, dans l'invocation de Racine, charmant les ennemis du voyage en se récitant ces beaux vers qui renfermaient pour eux une si poignante ironie. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. Et déjà, son courroux semble s'être adouci depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici. Et c'est alors qu'en se frappant le front, le jeune poète de 30 ans s'écriait « Et pourtant, j'avais quelque chose là !»« Ah, demain, pas plus tard, en ce Luxembourg éclairé par la lanterne, je veux revoir encore une fois cette toile navrante et pleurer tout à mon aise. » À présent que je comprends cette dernière scène de la terreur. Mais puisque vous voilà en si beau chemin, cher maître, ne pourriez-vous pas encore déchirer le voile qui recouvre pour moi un charmant et gracieux tableau dont le sujet me semble emprunté à la mythologie, une sorte de dieu des eaux, fort beau en vérité, et la tête couronnée de joncs et d'herbes marines, se montre au-dessus des flots réjouis. Il accueille gracieusement une belle jeune fille, à l'air doux et timide, regard baissé et pudique, nue, et paraît à ravir d'un léger voile de fiancé qui flotte sur ses épaules. Ah, je le pense bien, c'est le Scamandre, le fleuve de la Troade, je crois, précisément. Vous savez que les anciens l'avaient divinisé. À merveille, mais la jeune demoiselle, était-ce quelque nymphe ou quelque fille d'honneur d'Amphitrite? Non, ce n'était qu'une simple mortelle, avec un penchant à devenir déesse, et qui même a cru l'être pendant quelques jours. La veille de leur noce, et selon la coutume du pays, les jeunes Troyennes allaient se baigner dans les eaux du Scamandre, offrant aux dieux ce que la fille de Jephthé alla pleurer si amèrement sur la montagne. Ah, voyez la fourberie, et comment cette religion païenne, on ne savait jamais, oh mon Dieu, à qui se fier. Il advint qu'un jeune Troyen, de bonne aventure et de peu de foi, s'avisa de se déguiser en dieu marin, ce qui n'occasionne pas de grands frais de toilette, et quand la nymphe arriva, tremblante, invoquant le vieux fleuve, « Oui, 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 bien me voilà, » répondit le garnement, « j'accepte. » Pour cette fois, cher Laurence, il faut baisser vos beaux yeux, d'autant plus que Fontenay était de cet avis, que la nymphe innocente en savait aussi long que son jeune imposteur. Ah, ne me parlez pas de votre Fontenelle. Il a passé près d'un siècle à médire des femmes. Et s'il avait eu la main pleine que de vérités de ce genre, on lui reprocherait moins de l'avoir tenue constamment fermée. Mais, comme il s'agit d'une accusation grave, je ne veux pas m'en tenir à une hypothèse. Oh, yeah, cependant, comment se termina cette indigne supercherie? À quelques jours de là, Caliroé, c'était, je crois, le nom de la jeune Troyenne, entrant dans un temple au bras d'un jeune homme qu'elle allait épouser, aperçut le beau fleuve en habit de ville. Ah! S'écria-t-elle ingénument, voilà le Scamandre. J'aime autant la fin que vous dites. Fontenelle, à mon sens, n'a rien trouvé de mieux. Comme on devait admirer la fiancée du fleuve au bras de ce jeune bourgeois. L'Antiquité, tout comme nous, aimait à rire. Elle avait le fleuve Scamandre et nous avons Georges Dandin. Dites-nous maintenant si les marbres de nos musées vous ont moins intéressé que l'étoile splendide et si vous n'avez rien à demander au mystère des sculpteurs. Oh, vraiment, si. J'ai voulu admirer cette fameuse Vénus de Milo qui passe pour la merveille de la statuaire antique. Mais, vous l'avouerai-je, je suis restée aussi froide que le marbre que je considérais en ne voyant là qu'une statue mutilée, un débris auquel mon imagination ne rattachait aucun souvenir. Doucement, madame! Et s'il vous plaît, parlons avec plus de respect du chef-d'œuvre de ce maître inconnu qui, sans nul doute, a vu poser sous son regard ébloui le même modèle qui servit à Praxitèle pour sa Vénus de Cnide. J'ai nommé Phryné. Oh, miracle! Mais on l'avait admirée de toutes les extrémités de la terre. Elle fut célébrée à l'envi par les poètes, les historiens, les orateurs de la Grèce. Un poète écrivit à sa louange ces vers charmants que Voltaire a traduits dans Les plaisirs de ses 20 ans. Cypris passait à Cnide, elle y trouva Cypris. Ô ciel, dit la déesse émue, quel objet se présente à mes regards surpris? Aux yeux de trois mortels, j'ai paru toute nue, Adonis, Anchise et Paris. Mais Praxitèle, où m'a-t-il vue? Mais c'est bien la même Phryné, celle qui a accusé d'impiété et dû comparaître devant l'aréopage. Oui, elle-même, elle allait être condamnée quand Hypéride, son défenseur, eut l'idée heureuse d'arracher le voile qui couvrait ses épaules et le sein de cette reine de beauté. À l'aspect de tant de charme, ces vieux juges furent désarmés et la dame fut ramenée chez elle en triomphe. Un de nos artistes les plus célèbres, M. Jérôme, un grec dans les remparts de Troie, exposait naguère un magnifique tableau représentant Phryné devant le tribunal des Héliastes. Hypéride couronne son discours par l'éloquente péroraison que nous venons de rapporter. Gloire à Phryné! Louange éternelle à la beauté périssable. Il disait, j'étais bien digne de rechercher de pareils arguments et de pareils juges, ces Athéniens qui mettaient à l'amende une femme négligente de sa coiffure. Or, justement, dans ces détails se retrouve l'histoire entière de la cité de Minerve. Eh bien, merveille! Et cette fois, grâce à vos bienveillantes explications, je pourrais me passer du livret, dont le laconisme mit hier si fort en colère. Un livret, mais quelle misère! Il faudrait un livre tout entier. Hélas, madame, vous avez raison. Ce guide aimable, ce cavalier servant des belles ignorantes, heureuses de tout savoir, ce professeur discret n'existe pas. Il manque à la fois dans toutes les sciences, dans tous les arts. Le juste dépit que vous éprouvez, errant à l'aventure dans les vastes galeries du Louvre et du Luxembourg, vous l'avez ressenti mille fois dans vos lectures. Quel est le savant, l'érudit, le rhétoricien tout parfumé des lauriers du prix d'honneur qui ne se soit vu arrêter chaque jour par ce caillou, qui ne se soit jamais piqué le nez contre ce chardon pour nous servir d'un mot pittoresque, de Madame Émile de Gérardin. Un mot, une phrase, une allusion, autant d'obstacles qui vous arrêtent au milieu du chemin. Et tire-toi de là, si tu peux. Et, monsieur, à chaque instant, hier, aujourd'hui, tout à l'heure, dans le roman, dans les revues, dans les journaux, dans la conversation, je vois, j'entends de ces allusions que je comprends quelquefois, et que souvent aussi je fais semblant de saisir, au risque de prendre le piret pour un homme. Ainsi, dans notre petite ville, règne une aimable dame, hospitalière et de bonne compagnie. Elle ne manque jamais de répondre aux convives en retard qui s'excusent. « Mais monsieur, est-ce qu'il n'y a pas le quart d'heure de Rabelais ?»«
Ah, de grâce, Laurence, tirez moins sur vos troupes. »
« Aussi, mon cher Cicerone, pour vous prouver ma candeur, ai-je commencé par tirer sur moi-même, et je continue ce feu de fil en vous déroulant, non sans rougir, ce petit chapelet d'allusions littéraires, mythologiques ou historiques, qui ont pour moi des mystères plus obscurs que les causes efficientes ou la lumière incréée. Tenez, lisez vous-même, voici mon carnet. Le tison de Méléagre, une lettre de Bellérophon, mon petit ruisseau de la rue du Bac, et le Caron, pas un mot, l'antre de Trophonius, oh, le bon billet qu'a la Châtre. Après vous, messieurs les Anglais, avez-vous lu Baruch, le corps d'Astolphe, le chapeau de Fortunatus, le cercle de Popilius? Comment peut-on être persan? Discussion byzantine, l'abbaye de Thélème, les dés du juge de Rabelais, les laitues de Procrétien, les grues d'Ibicus, le grain de sable de Pascal, la lance de Téléphe, le grand Pan est mort, l'ordre règne à Varsovie, Apollon et Marsyas, le manteau d'Élie, le manteau d'Antisthène, la marchande d'herbe d'Athènes, les manchettes de Buffon, la tunique du Centaure, le festin des Lapithes, ai-je dit quelque sottise, le trait du Parthe, qu'on me ramène aux carrières, les pavots de Tarquin, visage pâle qui déplaisait à César, le taureau de... Oh, grâce et pitié! Quel beau livre on ferait des choses que nous ne savons pas! Ah, grâce et pitié! Quel beau livre on ferait des choses que nous ne savons pas! Toutes ces ignorances que je me sens obligé de confesser ne laisse pas que de mortifier cruellement mon amour-propre et de contrarier vivement. Votre curiosité, madame? Eh bien oui, là, franchement, pourquoi ne l'avouerais-je pas? Mais cette curiosité est légitime, et beaucoup d'honnêtes gens la partagent. Sylvia est déjà bien pris de savoir qu'il répond ingénument « je ne sais pas ». Mais c'est bientôt dit, mais pas plus tard que ce matin, un banquier que je cherchais à rassurer à propos de certains bruits répandus sur l'état de ses affaires me répondait
La femme de César ne doit pas même être soupçonnée. Mais j'approuvais du bonnet en m'avouant que je ne m'attendais guère à voir César en cette affaire. Eh bien, madame, vous allez saisir ce rapport qui vous a échappé, bien qu'il soit rigoureusement exact. Claudius, jeune patricien de la suite de Catilina, débauché comme son maître, honoré de ses empressements, Pompeia, mariée à Jules César. Une nuit que les dames romaines, à l'abri des regards impies, célébraient les mystères de la bonne déesse, il s'introduisit sous des habillements de femme jusque dans l'appartement de Pompeia. Mais, surpris par une servante, il fut mis en jugement comme profanateur des mystères. Le riche Claudius trouva des témoins pour attester qu'il était hors de Rome à l'heure de ses profanations, et, faute de preuves, il fut absous. César s'était contenté de répudier sa femme. Appelé en témoignage, il répondit qu'il n'avait aucune connaissance des faits qu'on imputait à l'accusé. Cette déclaration parut étrange, et l'accusateur lui demandant « Mais pourquoi ce divorce ?»« Il ne faut pas, répondit-il, que la femme de César soit soupçonnée. »« Ah, fort bien, je saisis le rapprochement. » Et mon banquier avait raison. « Mais voyez, ce livre inestimable que je demandais tout à l'heure pour l'intelligence de nos musées n'est pas moins indispensable pour les chefs-d'œuvre de notre littérature. On ne parcourt pas tous les jours les ruines de Pompéi et les galeries du Louvre, et chaque jour on lit ou l'on cause, à pied, en voiture, à la maison, en voyage, en bonne santé, malade, triste ou gai, la causerie ou le livre. En quelque situation de corps ou d'esprit que ce soit, on feuillette un roman, un journal, une pièce de théâtre. À chaque page se trouve rappelé un fait que l'on ignore, une allusion que l'on ne comprend pas, un mot oublié. Ce sont là autant de lacunes qui restent à combler dans notre désir de connaître, autant de brèches faites au plaisir que nous demandons à la lecture. Ainsi, madame, à votre compte, il vous faut un livret où seraient réunis, expliqués, commentés les faits, les mots célèbres, les circonstances curieuses, les phrases originales que l'on trouve à chaque instant ça et là, citées ou rappelées dans la lecture ou la conversation. Oui, c'est cela même. Hélas, vous trouvez ce phénix, ce merle blanc, que je demandais vainement à tous les échos de la librairie. Un livre où toutes ces choses, indépendamment de leur histoire, fussent accompagnées d'aperçus empruntés aux meilleurs écrivains, aux hommes les plus compétents. Une suite intelligente d'allusions ou d'anecdotes qui réveille le lecteur, qui soit la vivacité, l'attrait, le conseil, le compagnon du livre, et son commentaire obligé. Eh oui, mais encore une fois, où le trouver? Un livre qui vous évita la peine d'étudier l'histoire, ou plutôt qui vous l'apprit sans fatigue, vous y fit trouver l'intérêt du roman. Eh oui, mille fois oui, mais ce livre n'existe pas. Ah, je vous demande bien pardon, belle Laurence, il n'existait pas. Nous l'avons inventé, le voici. Vous venez d'en composer la préface. Mais c'est un piège, une insigne trahison, monsieur. J'ai fait une préface. Et moi qui n'en lis jamais, que celle-ci pèse au moins sur votre conscience, car si je l'ai faite, c'était vraiment sans le vouloir.
Très bien, madame, elle n'en vaudra que mieux, j'en suis sûr.
Ainsi, monsieur Jourdain, faisait de la prose assez bonne, et sans le savoir.
Pierre Larousse.